Bonsoir et bienvenue dans Nouveau Dickers, l'émission culturelle des gens qui prennent très au sérieux des sujets dont tout le monde se fout.
On est sur Nojlox et en podcast sur Radio Kawa.
Corporate.
On va vous parler ce soir de des événements principaux, d'un des événements de ces derniers jours, d'hier en fait, les Golden Globes.
De cette nuit plutôt.
Ouais, de cette nuit.
Enfin, d'aujourd'hui.
Techniquement, c'est dimanche soir aux États-Unis, donc voilà. Donc, les Golden Globes, oui, dont la cérémonie avait lieu hier à Hollywood.
Qui ne désigne pas les seins de Sofia Vergara.
C'était une très mauvaise blague, Aïcha.
Un peu comme ta mère.
Ça fait pas de sens, cette blague, mais c'est pas grave non plus.
Un peu comme ta mère.
Voilà. On est reparti dans les grands classiques.
Elle fait sens au bout de la quatrième fois où je la place dans des lieux.
On est reparti dans les grands classiques, donc. Ce soir, donc, on va vous parler brièvement un peu de la cérémonie. On va faire une émission assez courte. On est un peu tous, on revient gentiment à l'activité à plein temps, enfin à plein temps. Une fois toutes les deux semaines, on pense tenir comme rythme.
Et je viens d'apprendre que les examens que je pensais être dans trois semaines étaient en réalité la semaine prochaine. Woo!
Non, dans deux semaines, Aïcha.
Oui, non, ça fait que une semaine vu que cette semaine.
Enfin, bref.
Voilà.
Donc, on aura un emploi du temps très stressé jusqu'aux Oscars, mais ça va être amusant quand même.
Les Oscars, en fait, je pense que les Golden Globes, c'est la préparation de. C'est le moment où tu commences à préparer les punchlines que tu pourras placer aux Oscars.
Faut dire aussi que les Golden Globes, c'est l'émission, c'est la cérémonie un peu fun, en fait, parce que personne n'en a quoi que ce soit à foutre des résultats. Même pour la TV, c'est pas spécialement intéressant. Le jury des prix, c'est les. Donc, pour les Golden Globes, c'est l'HFPA, c'est le Hollywood Foreign Press Association. Donc les
t'as dit quoi, l'HFPA?
L'HFPA.
Ah d'accord, c'était plus drôle
Hollywood
quand tu as
Foreign Press Association.
C'était plus drôle quand je pensais que tu avais dit que c'était
pas spécialement plus drôle, mais c'est pas grave.
C'était beaucoup plus drôle.
Les HFP, donc c'est les journalistes étrangers à Hollywood, en fait, c'est un club très fermé qui remet ses prix.
Principalement parce que les États-Unis ne laissent pas entrer beaucoup de gens sur leur territoire.
Surtout parce qu'ils renouvellent à l'interne les membres et c'est pas plus de 5 nouveaux membres par an et généralement c'est un seul. Donc il n'y a pas beaucoup de renouveau. C'est surtout des hommes blancs acides d'un certain âge et du coup, il y a peu de nouveautés, il y a peu de ils prennent pas forcément toujours de risques extrêmes. Ça reste relativement dans la ligne mainstream. Pour les séries, ils sont peut-être un peu plus innovants que les
Emmy
parce que les Emmy, les votants, ça dépend des chaînes. Mais concernant le cinéma, par exemple, ils sont légèrement à la masse.
Oui, et puis les Emmy Awards, c'est chaque année la même chose. C'est aux Modern Family qui gagnent dans cette putain de catégorie.
En fait, ça dépend. Les Emmy Awards sont mis en fonction. Les votants des Emmy Awards sont selon le prix, en fait, le poids des différents diffuseurs. Vu que c'est les employés, en fait, d'une boîte qui votent. Et généralement, ils ont tendance à voter pour la maison. Mais les Emmy Awards, ça s'explique surtout parce qu'il y a une certaine volonté de faire du mainstream. Quoi.
Ça me fait penser à ces petits fils de pute, tu sais, quand on était à l'école primaire et qu'il fallait élire un président de classe, le connard qui votait pour lui-même.
C'est un peu la règle en fait aux Emmy Awards, c'est généralement assez comme ça. Alors bon, faut pas oublier que donc du point de vue des films, c'est aussi le problème des Golden Globes, c'est la division des films entre drama et puis comédie musicale qui ne fait pas beaucoup de sens et qui fausse le jeu. Typiquement pour le meilleur acteur cette année, on va y revenir dessus, mais la chose aurait été sans doute très différente si Léo DiCaprio avait dû concourir en même temps que Matthew McConaughey, Chiwetel Ejiofor et puis Idris Elba, ça aurait sans doute donné un résultat un peu différent. Et puis du coup, ça laisse une possibilité à certains films d'être à l'honneur. Je sais plus si c'est pas Les Misérables qui avait gagné une fois. Il était nominé en tout cas.
Ouais, écoute,
ça laisse des nominations un peu bizarres parfois. On se retrouve avec des choses comme The Tourist qui est nominé. Alors qu'il avait genre 20% sur Rotten Tomatoes, ce genre de choses, un petit peu bizarre et qui fleure bon l'arrangement. Mais c'est vrai que les Golden Globes sont pas intéressants pour les résultats. D'ailleurs, les awards shows sont rarement intéressants pour les résultats. Il ne reflète que la, à part peut-être les shows des syndicats d'acteurs, de réalisateurs, enfin des
et à
des,
part pour
des
les
critiques
personnes,
aussi.
Pour les personnes comme moi, pour qui ce genre de récompense compte.
Mais enfin, ça compte de toute façon parce que ça va influencer sur la vision d'un. On voit des films parce qu'ils ont gagné un Oscar, on regarde des séries parce qu'elles ont gagné des Emmy. On regarde rarement un film parce qu'il a gagné un Golden Globe, je veux dire.
D'ailleurs, je pense que les gens ne regardent Modern Family qu'uniquement parce que ça gagne des Emmy chaque année.
Je pense pas seulement, mais c'est plus complexe que
ça. Et parce qu'ils ont aucun goût aussi.
Mais en même temps, je suis pas manichéen, Aïcha, donc je vais pas te suivre là-dessus.
T'es pas quoi ?
Je suis pas assez manichéen pour te suivre là-dessus, Aïcha.
Donc tu ne penses pas que tous les gens qui regardent Modern Family sont des enfoirés?
Non, parce que toi et moi regardons Modern Family.
Non, mais moi je regarde Modern Family pour dire que c'est de la merde. Et pour pouvoir continuer à dire que c'est de la merde sans qu'on me réponde « Ouais, mais non, t'as pas vu le dernier épisode. »
Non, mais il faut dire que ce début de saison de Modern Family n'était pas si mauvais que ça.
Si.
Non.
Si.
Moins bon que les, moins bon que beaucoup d'autres choses, mais pas aussi.
Sérieusement,
que
ça me fait. Modern Family me fait autant rire que How I Met Your Mother. Et How I Met Your Mother me fait tellement rire que je suis obligée de me scarifier devant la télévision pour communiquer le ressenti correct que j'ai pour cette série.
Alors, pour ce qui est donc du cinéma, on va passer brièvement... Enfin, d'abord, peut-être la cérémonie en elle-même, qui est la principale raison de regarder les Golden Globes, en fait.
Surtout que cette année, c'était présenté par Amy Poehler et...
Mais toujours, les trois dernières années avant l'année passée, c'était Ricky Gervais, qui est assez marrant aussi. Il y a toujours un côté beaucoup plus détendu au Golden Globes. Tout le monde boit, tout le monde est un peu bourré. C'est diffusé sur NBC et pas sur ABC, donc il y a un peu plus de latitude.
Ils ont le droit de boire de l'alcool, déjà.
Bah, c'est pas Disney, quoi, du coup.
Voilà.
Et puis, il y a ce côté un peu plus... pas forcément irrévérencieux, parce que ça l'est pas vraiment, mais il y a un côté un peu plus libre. Même s'il n'y a pas les moyens, forcément, pour les skits qu'il y a aux Oscars, ça a tendance à avoir des monologues un peu plus marrants, des blagues assez rigoles. Et il y a beaucoup de problèmes d'organisation, comme on l'a vu cette année, où on a vu Jonah Hill, et c'est plus qui était avec Jonah Hill, avoir des problèmes à lire le prompteur, ou bien encore Emma Thompson qui arrive pieds nus avec un martini à la main.
Oui, et tenant
ses chaussures. Et devant confier à la fille de Kevin Bacon le soin de lui apporter l'enveloppe parce qu'elle l'a oublié. C'était des très grands moments de télévision, je dois dire.
En fait, les Golden Globes, c'est un peu l'équivalent des Awards Show de notre émission.
C'est une métaphore surprenamment... Surprenamment correcte, on va dire.
C'est une comparaison, c'est pas une métaphore.
Ouais, enfin, c'est une comparaison que je trouve plus ou moins relativement correcte, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu plus détendu, quoi. Un peu plus. On en a rien à foutre. On fait des blagues sur Léo DiCaprio et le vagin des top modèles avec qui il couche. C'est très.
Ah ouais, ils ont fait une blague là-dessus ?
Ben oui, et maintenant, comme le vagin d'un super modèle, accueillons chaudement Léo DiCaprio.
D'accord, je l'ai loupé.
C'est Tina qui l'a fait quand il est venu présenter le prix pour la meilleure actrice.
D'accord.
Bref. Les récompenses en elles-mêmes pour le cinéma, relativement inintéressant, on va dire.
Gravity a gagné un truc, c'est tout ce qui compte.
Bah, disons, c'était attendu, quoi, un partage entre 12 Years a Slave, Gravity et American Hustle, faussé par le fait qu'American Hustle concourt dans les catégories, donc, ne concourt pas dans les mêmes catégories. C'est juste un peu dommage parce que je ne sais pas si la performance... Enfin, je n'ai pas encore vu... J'aime beaucoup Jennifer Lawrence, mais je ne sais pas si j'ai entendu beaucoup de mauvais retours sur son Golden Globe. C'est un peu trop attendu.
Tout le monde aime Jennifer Lawrence.
Ouais, d'accord, mais il y a peut-être d'autres actrices qui le méritaient dans sa catégorie parce qu'elle concourait en fait.
Oui, je sais, mais Jennifer Lawrence, maintenant, elle va tout gagner parce que c'est Jennifer Lawrence.
Je sais pas, aux Oscars, peut-être pas, par exemple.
Oh.
En tout cas,
je parie qu'elle gagne un truc aux Oscars.
Bah, elle est nominée pour un seul truc, donc il y aura la concurrence rude du côté des films dramatiques aussi.
Oui, j'espère.
Et puis, alors, on peut revenir sur le fait que The Wolf of Wall Street n'ait gagné qu'un seul prix pour Scorsese, c'est le prix de. C'est pour Léo DiCaprio, surtout le Golden Globe du meilleur acteur, 11 ans après son dernier.
Qu'il jouait bien en plus dans Wolf of Wall Street. Vraiment, c'était une performance inoubliable. Quel film merveilleux.
Je vais pas...
Tu entends là le sarcasme.
C'était un bon film de Wolf of Wall Street.
Non. C'était un film sympa.
T'étais plus enthousiaste devant le film, Aïcha.
Oui, mais dès que tu repenses... Enfin, j'ai oublié le film après l'avoir vu. Quoi.
Moi pas. Mais moi, j'avais pas vu avant de voir le film, donc ça va être peut-être...
Non, j'étais bourré que pendant, disons, la première.
Ce qui devait pas aider.
Quoi ?
Après, tu décuvais ce qui devait pas aider.
Ouais, non, mais par contre, un truc qui m'a surpris avec The Wolf of Wall Street, c'est que j'ai absolument pas remarqué qu'il disait beaucoup fuck.
Ouais, moi non plus, par contre. Alors, tout le monde
m'a
l'air scandalisé. On doit être désensibilisé à ça parce qu'on regarde trop de séries sur HBO, en fait.
Ah, moi, c'est surtout parce que je traite tout le monde de fils de pute et que je dis putain et que je dis fuck à tout bout de champ, donc...
Tu as la langue un peu leste, effectivement, Isha.
La langue un peu leste ?
Leste, oui.
Tu n'as aucune idée à quel point.
Et puis,
tu ne le sauras jamais. Cheers.
Il faut boire pour oublier ce genre de blague. Donc, les Golden Globes ne sont pas vraiment représentatifs de ce qui va se faire aux Oscars. D'une part, déjà, cette division un peu absurde aujourd'hui entre musical, les comédies et puis les dramas. Et puis en plus, parce que sa base de votants n'a rien à voir avec les Oscars. Mais voilà, c'est un peu... ils ont tendance à être un peu plus populistes, on le voit. En l'occurrence, tout le monde est un peu content cette année.
C'est la cérémonie pour la plèbe, en fait, les Golden Globes.
Je sais pas, les Oscars sont quand même plus mainstream que les Golden Globes. Donc en fait, peut-être qu'ils ont envie d'être aimés, finalement. Je sais pas, c'est peut-être une volonté désespérée de la part de ces étrangers à Hollywood de se faire apprécier par... les barons en récompensant les statuettes. C'est vrai qu'un des reproches qu'on fait aux Golden Globes, c'est qu'ils ont tendance à nominer des actrices, des grands acteurs, des actrices, acteurs connus, très connus, au détriment d'autres qui ont été meilleurs, parce qu'ils préfèrent avoir des acteurs connus pendant la cérémonie, alors que sinon, aux Oscars, de toute façon, il y aura tout le monde, mais aux Golden Globes, tout le monde. Enfin, c'est rare que des gens se pointent s'ils sont pas. Enfin, il arrive que des gens ne se pointent pas s'ils sont pas nominés. Alors que, du coup, pour s'assurer de la présence de, je sais pas, Angelina Jolie ou Brad Pitt, l'idée serait de les nominer.
D'accord.
Alors, je sais pas, il y a un temps à se vouloir se faire apprécier. Une volonté d'être un peu plus malin que les autres, je sais
moi,
pas.
Moi, je comprends pas, parce que si on meuf de l'alcool, évidemment que je me pointe à une soirée.
Mais Aïcha, une star d'Hollywood peut se faire offrir de l'alcool à plein d'endroits différents.
Oui, mais pas en regardant Amy Poehler et Tina présenter un truc.
Ah, ça, d'accord, mais toi, tu es une grande fan de Tina et Amy.
Surtout Tina.
Oh, mais Amy Poehler était quand même brillante, j'ai trouvé
Amy
ce
Poehler,
soir.
Et j'ai été contente qu'elle reçoive un prix.
On en parlera après
on
pour
en
la
parlera
TV.
Après, oui, pardon.
Bref, pour le cinéma, donc on va pas trop en parler. On a vu Wolf of Wall Street, on vous en parlera un petit peu après. Mais c'est vrai que j'ai pratiquement rien vu cette année. J'étais content que Frozen gagne. C'est du vol, s'est fait voler le prix de la meilleure chanson. Tout ça pour avoir Bono sur scène.
C'était pas Miley Cyrus qui faisait la chanson de Frozen?
Miley Cyrus, mais tout à fait.
Taylor Swift?
Non.
Parce que je sais que Taylor Swift était nominée.
Je suis pas sûr qu'elle était nominée, mais je sais qu'elle était nominée l'année passée pour la chanson de Hunger Games. Mais cette année, la chanson de Hunger Games, c'était Coldplay. Et en tout cas, pour Frozen, c'était pas Miley Cyrus, c'est le duo.
Sérieusement,
de...
entre Taylor Swift et Coldplay, je m'attends presque à ce que dans le prochain Hunger Games, il y ait du Nickelback.
En tout cas, pour l'instant, pour Frozen, c'était de Songwriters de Disney. Et puis, c'était Idina Menzel qui chantait. Donc, il n'y a rien à voir vraiment avec Miley Cyrus.
Steven Price n'était pas nominé hein, pour.
Pour la meilleure bande originale. Bah, meilleure chanson, il n'y avait pas de chanson.
Mais non, mais parce qu'il y avait deux catégories musicales.
Il y a meilleure bande originale.
Voilà.
Et puis meilleure chanson qui
est
alors.
C'est ce que j'ai dit.
Là, il y a les chansons extra-diégétiques, comme celle qui a gagné, celle de Bono pour le film sur Mandela. Il y a les chansons extra-diégétiques exactement comme celle de Coldplay, où justement Taylor Swift l'année passée. Mais ce que j'ai bien aimé dans la chanson de Disney, c'était une chanson diégétique qui est donc chantée dans le film. C'est une comédie musicale, donc chantée pendant le film. Et c'est pour ça que j'ai presque trouvé un peu dommage que ce soit pas récompensé. Mais bon, c'est généralement ça qui a récompensé aux Oscars, donc il en aura probablement un.
D'accord.
Et puis, donc la musique, oui, mention pour Lost, surprenant, c'était pas Gravity.
Gravity avait un score incroyable.
Après, le compositeur qui a gagné était assez amusant. J'ai trouvé Alex Ebert qui a fait pour All Is Lost. J'ai écouté un petit peu, c'est sympa aussi. Il a une tête à sortir d'un bar islandais à 2h du matin après avoir joué un show secret avec son groupe indé.
Alors, je vois absolument pas ce que tu veux dire.
Il avait la coiffure totalement improbable, la grosse barbe.
Ouais, c'est un hipster, quoi.
Non, non, vraiment pas. Un côté vraiment un peu viking, c'était assez marrant.
D'accord.
On fait une petite pause musicale avant de passer à la télévision.
Et ce sera Little Talks de Monster and Man.
À propos de...
This old and empty house.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even dress myself.
It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks on me, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. For the truth.
You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang. Ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
C'est reparti, on parle des Golden Globes, on est dans Nobody Cares, sur Nushvox et Radio Kawa.
Et on vous parle maintenant de la partie TV des Golden Globes. Alors la partie TV des Golden Globes a l'avantage de ne pas être forcément aussi biaisée que la partie film ou que les Emmy Awards par exemple, mais ça reste assez, un panorama assez peu représentatif, on va dire, de la production. Pour les dramas, c'est surtout du... ce qui a récompensé, c'est surtout pour l'instant du câble. Bon, c'est pas forcément un mal, mais... on ne voit pas souvent passer Elementary. Et puis, pas de réaction, Aïcha, je mentionne Elementary.
Désolée, je répondais à Paco qui s'étonne, mais il a tweeté « Merde, mais vous picolez en fait !» avec un point d'interrogation et un point d'exclamation.
Mais il semble découvrir ce fait.
Je pense que c'est la première fois qu'il nous écoute, s'il est vraiment en train de
très,
le faire.
Très, très lui. Donc, une récompense, on va brièvement passer sur les récompenses, sur les téléfilms et puis mini-séries. J'en regarde pas beaucoup, je veux dire, cette année. Nouveau des prix pour Behind the Camera.
Moi, j'ai juste été dégoûté de l'absence totale de Rectify.
Mais Rectify n'était pas une mini-série. Et puis, comme genre de drama, c'est une chaîne trop petite. C'est sur IFC, hein, je crois. Ou Sundance Channel. Je crois que c'est sur Sundance Channel,
je
oui.
Je crois que c'est Sundance Channel.
Je confonds les deux. Sundance Channel, Rectify, ça aurait peut-être mérité d'être nominé. Je sais pas, mais il y a beaucoup d'absents dans la catégorie drama.
Tu l'as vu,
drama,
Rectify,
hein. Non, je sais
pas.
Ce que
crois-moi,
je dis, je
sais pas. Quand tu le vois, tu sais que c'est une série qui devrait...
Mais en même temps, on parle des Golden Globes, on parle pas d'une série très spécialisée. Peut-être pour regarder ce qui est vraiment très bon, je ferais plus confiance, par exemple, au Critics' Choice Award ou bien au truc comme ça, aux critics, enfin, aux récompenses qui sont...
aux cérémonies de récompense que personne ne regarde.
Bah, paradoxalement, c'est généralement ça. Par exemple, les SGA Awards pour les acteurs sont généralement assez bien adaptés parce que c'est des gens qui savent un peu de quoi ils parlent.
C'est ceux-là qui étaient présentés par Seth Rogen l'an dernier.
Je sais plus, mais
je
en
me
tout
rappelle
cas,
qu'il a présenté un truc qui était drôle apparemment.
C'était peut-être les...
les Joe D'Apato Awards.
Il y a aussi les... je sais pas, mais en tout cas, il y a... c'est trop mainstream, je pense, pour récompenser
les Jew Awards en fait. Oh, ce serait génial de faire ça comme cérémonie.
Je sais pas en tout cas pour les pour Rectify, mais c'est pareil, hein, on peut dire la même chose d'Hannibal, on peut dire la même chose de beaucoup de séries, de petites séries. Orphan Black, pas beaucoup plus représentée.
Oh, elle a quand même été représentée, Orphan Black.
Ouais, nominée, une nomination, mais c'est vrai que c'est pas énorme comparé à ce que peut qu'elle aurait mérité, je pense.
Oui, si tu le dis.
Par contre, alors, ce qui a été récompensé, donc, c'est bel et bien donc, le câble, avec deux victoires pour Breaking Bad, dans meilleur acteur pour Bryan Cranston, et puis meilleure série pour Breaking Bad.
C'était un peu une évidence, vu que c'était la dernière année, évidemment, qu'ils allaient gagner.
Ouais, mais les Golden Globes ont tendance, on le sait, à récompenser les séries qui débutent, et puis elles n'avaient pas récompensé Breaking Bad jusque-là, donc on pouvait se dire qu'elles avaient une...
Alors que, sincèrement, la dernière saison, c'était pas la meilleure saison de Breaking Bad.
Ça, je sais pas, j'ai pas vu Breaking Bad, donc je peux pas dire, mais...
T'as pas vu Breaking Bad ?
Tu sembles l'apprendre à chaque fois que je te le dis.
Oui, parce qu'à chaque fois, c'est le genre de choses que j'ai envie d'oublier.
En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que... est-ce que la compétition était rude, tu dirais, surtout sur la meilleure série, en fait ? Parce qu'on avait Breaking Bad, on avait Masters of Sex qu'il méritait quand même aussi.
Oui, mais disons, Masters of Sex, je dirais que son problème, c'est qu'elle a eu une première partie de saison qui était pas forcément incroyable, et que c'est vraiment dans la seconde partie de saison que la série a décollé pour moi.
Masters of Sex souffre peut-être d'être... bon, alors Showtime est plus récompensé aux Golden Globes. On l'avait vu, House of Lies avait gagné un award l'année passée, par exemple. Pas du tout représenté. Shameless, par exemple, n'était pas là.
Voilà, Shameless. Mais Shameless, c'est la grande oubliée des cérémonies.
Mais je crois que c'est parce que Showtime, aux Emmy, par exemple, aux Emmy, Showtime a moins de votants que la plupart des autres chaînes. Alors que HBO, par exemple, en a tout plein.
Ouais.
Ce qui explique que Girls ou bien que VIP... Bon, ça, pour VIP, c'est mérité, par exemple. Mais VIP,
d'accord,
par exemple, n'était quasiment pas nominé, je crois, à part pour un meilleur... pour meilleure actrice pour GLD, je crois, pour Julia Louis-Dreyfus.
Oui, ça, oui. Oui. Mais, ça, mais c'était pas pour VIP, ça, si.
Mais si, elle était nominée deux fois. Elle était nominée pour meilleure actrice d'un second rôle pour Anne of Sed,
ouais,
le film où elle jouait contre, en face de James Gandolfini. Et puis, elle était nominée pour VIP aussi. Alors, par contre, dans le meilleur drama, on avait, on avait justement House of Cards, on avait The Good Wife. Je regarde pas The Good Wife, mais il paraît que c'est excellent.
Je regarde pas non plus, mais il paraît que c'est excellent.
Et puis House of Cards.
House of Cards, j'ai pas regardé parce que j'ai pas.
Que j'ai trouvé un petit peu soporifique,
ouais,
mais qui
voilà,
était vraiment, qui était très bien, mais qui était un petit peu en dessous de la compétition. Le seul vrai intrus, c'est Downton Abbey, qui avait rien à faire là cette saison. La saison 1 de Downton Abbey était sympa. Maintenant, c'est, enfin, je regarde parce que c'est sympa à regarder, c'est rigolo, mais enfin, ça n'a aucune place dans le meilleur drama. Faut pas se leurrer, hein. C'est pas vraiment à sa place.
Donc, en même temps, s'il fallait faire ta propre liste des meilleurs dramas, tu foutrais quoi?
Il y aurait certainement Elementary. Il y aurait,
oui,
Hannibal.
Elementary pour sa saison 2, par contre.
Ah, la saison 1, j'ai trouvé brillante aussi, mais...
La saison 1, disons que la saison 1, tant qu'on n'entrait pas dans la mythologie, c'était pas intéressant. La fin de la saison 1
là, c'est
était...
vrai qu'il y a plus de régularité, même dans les séries qui sont pas... Enfin, la mythologie s'insère plus cette année.
Voilà, là cette année de Elementary, je la trouve quasiment irréprochable.
Mais je dirais clairement Hannibal, qui est oublié.
Oui, Hannibal, c'est clair, mais peut-être que c'est un petit peu trop violent pour... C'est parce que...
Pas.
Sincèrement, même dans les séries, même dans les séries HBO, même dans les séries Showtime, même dans les séries AMC.
Oui, on a plus tendance à montrer du cul qu'à montrer de la violence. Comme
voilà,
ça.
La violence dans Hannibal, elle est vraiment très très crue, et du coup, je peux comprendre que ça rebute et que, enfin, c'est vraiment, il y a des dramas qui, malgré le sexe, restent assez accessibles à tout public. Hannibal, c'est vraiment genre la série, c'est quasiment un film d'horreur, quoi.
Sinon, j'aurais peut-être nominé Sleepy Hollow, qui t'a nominé Downton Abbey.
Ah non, Sleepy Hollow, c'est un très bon guilty pleasure.
J'aime pas le terme guilty pleasure du tout, mais...
Pour moi,
ça... Y a pas à te sentir coupable d'apprécier Sleepy Hollow, c'est très
non,
bien.
Non, mais les guilty pleasures, pour moi, c'est pas des trucs dont tu te sens vraiment coupable, mais c'est des séries qui sont sympas, très cool à regarder, qui sont vraiment super cool à regarder, mais quand tu réfléchis vraiment au truc, ça casse pas trois pattes à un canard.
Je sais pas, j'aime beaucoup Sleepy Hollow, donc... Si tu mets Downton Abbey, je pense que tu peux mettre Sleepy Hollow, honnêtement.
Oui, mais je regarde pas Downton Abbey parce que c'est un truc anglais, tu sais.
Alors voilà, sinon du côté des... Donc meilleure actrice, c'est Robin Wright qui a gagné pour House of Cards. Alors elle est très très bien dans House of Cards, mais il y avait quand même un palmarès assez impressionnant. Il y avait Tatiana Maslany.
Qui, d'accord,
Black,
c'est le
bon
point d'Orphan Black. Oui, c'est clair que c'est impressionnant la manière dont elle arrive à switcher entre tous ses personnages. Alors que, rappelons-le, dans Dollhouse, Elisa Dushku, c'était un peu la seule manière dont tu pouvais différencier ces personnages, c'était d'après la longueur des habits qu'elle portait. Et c'était vraiment, ça se jouait toujours à quelques millimètres près.
Sinon, il y avait Taylor Schilling qui était nominée pour Orange is the New Black, ce que j'ai pas bien compris. Enfin, elle est très bien, mais est-ce que je l'aurais nominée ça en drama? C'est plus par durée qu'autre chose que c'est un drama, parce que autrement.
Oui, moi je l'aurais nominé en drama, oui. C'est un drama, c'est pas une comédie.
C'est une dramédie quand même, Orange is the New Black.
Non, pour moi, dramédie, c'est plutôt Scrubs. C'est un truc dans lequel vraiment... Pour moi, la dramédie, c'est vraiment quelque chose dans lequel
disons, pour
le
moi,
drame
quand même,
s'inscrit...
C'est plus comédique que Shameless, par exemple.
Quoi?
C'est plus comédique que Shameless, Orange is the New Black.
Ah oui, clairement. Mais Shameless, c'est très très sombre comme série.
C'est quand même une dramédie, je dirais.
Ah non, pour
dans
moi...
L'esprit. Enfin, c'est la dramédie en longue forme, comme par exemple peuvent l'être, justement, Orange is the New Black.
Non, alors pour moi, Shameless, c'est vraiment un drame dans lequel il y a quelques éléments de comédie, mais même les éléments de comédie, quand ils pensent, je trouve qu'ils sont pas si drôles que ça, quoi. Enfin...
Mais par exemple, je trouve Girls moins comédique que Shameless. Pas parce que c'est pas drôle, parce qu'il y a moins d'éléments comiques.
Tu veux dire...
Je trouve Girls plus sombre que Shameless, par exemple.
Alors, pas
du tout.
Il
y a moins de moments légers que je trouve dans Girls.
Ouais, ouais.
Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Girls, c'est moins de te faire rire que Shameless.
Ouais, mais c'est parce que Shameless a un propos très, très sombre qu'ils sont obligés d'alléger, selon moi.
C'est vrai que c'est un point de vue qui...
Enfin, t'as qu'à voir, la saison 2... Enfin, moi, ce que je retiens de Shameless, c'est vraiment ces éléments très, très sombres qui, d'accord, sont parsemés un peu de comédie, mais c'est quelque chose qui est dur à regarder, Shameless, parfois. Enfin, c'est une série... bon, d'accord, je vais pas dire la seule, parce qu'il y en a d'autres, mais je crois que c'est une des séries qui, personnellement, me fait le plus chialer quand je regarde les épisodes. C'est vraiment quelque chose qui est bouleversant quand tu penses vraiment à ce qui se passe là-dedans, c'est quelque chose qui te déchire le cœur.
C'est vrai que c'est déchirant et que ça a plus probablement de potentiel pour, du coup, avoir besoin de légèreté que par exemple Girls.
Et surtout, c'est...
Mais pour revenir... vas-y, finis.
Enfin, je trouve que Shameless, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est plus réaliste que Girls, pour moi. Enfin, non, disons que...
J'aurais du mal à dire ça. Girls représente un milieu très particulier.
Ouais,
peut-être
mais
que tu connais mieux le milieu de Shameless que le milieu
voilà,
de Girls.
Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Shameless s'attache à décrire une réalité plus sombre et peut-être qui s'adresse à plus de gens que la réalité de Girls.
C'est pas faux. Mais pour Taylor Schilling, donc, elle est je ne vais pas dire qu'elle est mauvaise parce qu'elle était très bien dans Orange is the New Black, mais beaucoup de ses... si je devrais nominer quelqu'un dans Orange is the New Black, c'est pas elle. Même...
C'était Taylor Schilling, c'est donc la blonde.
C'est Piper, quoi.
C'est Piper. Non, effectivement, moi, c'est le cast secondaire, mais parce que...
Mais du coup, il ne l'aura pas nominé en personnage principal.
Voilà, et en même temps, le cast secondaire prend pour moi tellement d'importance dans Orange is the New Black que... Enfin, il y en a certains, je les mettrais carrément dans les premiers rôles, quoi.
C'est vrai, parce que ça dépend beaucoup d'épisodes. Par exemple, Red, enfin, la cuisinière,
ouais, ouais, tout à fait.
Est quasiment dans le cast principal.
Voilà, oui.
C'est toujours assez nébuleux, hein, faut dire cette distinction.
Ouais, c'est très nébuleux.
Donc, du coup, pour première série dramatique, ça reste relativement attendu, on va dire.
Ouais, oui.
Notez pas de nomination pour Anna Gunn. Est-ce que c'est surprenant? Elle avait été nominée aux Emmy Awards. Elle avait gagné un Emmy Award, d'ailleurs.
Ouais, ouais, moi, ça m'a surpris qu'il n'y ait pas de nomination pour Anna Gunn. Surtout que cette saison de Breaking Bad, elle était vraiment bien dedans. Enfin...
Faut dire aussi que c'est étonnant parce qu'il y avait quand même deux nominés des networks. On avait Juliana Margulies pour The Good Wife et puis surtout Kerry Washington pour Scandal.
Alors, Scandale, le cas Scandale, c'est un cas un peu à part. Tu m'as dit qu'il y a beaucoup de gens qui s'en moquaient sur Ciné+, quand ils faisaient les commentaires de la cérémonie. Scandale, c'est une série qui jump the shark, mais en permanence. Mais ça le fait d'une manière qui est réellement bien écrite et passionnante.
Un peu comme Grey's Anatomy.
Voilà, oui, c'est exactement ça.
C'est la même créatrice.
Pas Grey's Anatomy dans les premières saisons. Grey's Anatomy dans les premières saisons, ça n'avait aucun intérêt, c'était des amourettes et ce genre de conneries. Mais Grey's Anatomy, sur ses, disons, 4-5 dernières saisons, c'est devenu quelque chose de vraiment sombre, qui traite ses personnages avec beaucoup d'intelligence, qui traite les relations humaines avec beaucoup d'intelligence et qui nous présente des personnages... Un des gros points forts de Grey's Anatomy et de Scandal, c'est que les personnages principaux sont des femmes fortes. Chacune à leur manière, mais c'est des femmes fortes. Et ben, Orphan Black aussi, en même temps.
Enfin, Orphan Black, il y a un cast quasi exclusivement voilà, féminin, hein, à part quelques méchants. Et puis,
voilà, c'est ça. C'est cool, qu'on ait... Je trouve que ces deux dernières années, on a eu beaucoup de chance pour ça. C'est qu'on a eu une espèce de recrudescence de séries qui placent des femmes fortes en personnages principaux. Que ce soit Revenge, qui d'accord était vraiment pas bonne, enfin ça c'était du soap, mais bref,
The Good Wife, on a Scandal,
on a The Good Wife aussi qui est l'exemple parfait, on a
bon, même House of Cards où Claire Underwood est un des personnages très importants et où il y a beaucoup
Claire Underwood,
ouais, c'est la personne,
ok, non, parce que Blair Underwood c'est un black en fait,
non, je sais,
voilà,
c'est Robin, le personnage de Robin Wright en l'occurrence,
ok.
Mais c'est vrai que les cinq personnages de Anna Gunn, par exemple, n'est pas un personnage aussi, je sais pas si c'est aussi fort, que aussi puissant et aussi présent que par exemple peut l'être Bryan Cranston dans Breaking Bad quoi.
Ouais, ouais, non, c'est clair.
Alors que là, les cinq personnages qui étaient nommés, Claire Underwood un chouïa moins, parce que ses histoires sont un peu plus déconnectées de celles de son mari, mais en l'occurrence c'est tous des personnages vraiment très centraux
et c'est encore une fois un truc qui me dégoûte que Fiona, enfin que Amy Rossum soit pas nominée là-dedans, parce qu'Amy Rossum, ça fait peut-être pas sur la première saison, mais ça fait en tout cas sur les deux dernières saisons de Shameless, qu'elle joue de nouveau un personnage de femme forte, mais surtout un personnage très nuancé et magnifiquement interprété.
Effectivement. Pour ce qui est des dramas, il y avait noté que vu que les supporting actors, donc les rôles secondaires, c'était confondu entre comédie, drama et puis mini-série. Les seuls qui étaient sur le drama, c'était Hayden Panettiere pour son rôle dans Nashville, et puis Monica Potter pour Parenthood, qui n'ont pas gagné. C'était...
Alors sincèrement, j'ai arrêté Nashville, mais nominer Hayden Panettiere pour quoi que ce soit après Heroes, c'est quelque chose qui me surprend, quoi. Et à Nashville, j'avais vu la saison 1, pardon, mais elle était ridicule dedans, Hayden Panettiere. Donc je sais pas s'il y a eu un énorme...
En même temps, ils ont nominé aussi Sofia Vergara pour Modern Family, Janet McTeer pour The White Queen, donc c'est pas forcément étonnant.
Pourquoi Sofia Vergara? Sérieusement, son personnage est pas drôle, c'est sans arrêt les mêmes blagues qui tournent en rond.
Donc c'est pas étonnant que Jacqueline Bisset gagne pour Dancing on the Edge, dont j'ai entendu que du bien, effectivement.
Voilà.
Et du côté des acteurs dans son rôle, c'était Josh Charles pour The Good Wife, Rob Lowe pour Behind the Candelabra, donc dans le téléfilm sur Liberace, Corey Stoll pour House of Cards, je vois pas d'où ça sort. Enfin, il était bon, il est très très bon, mais pas à la hauteur des autres, je pense. Aaron Paul pour Breaking Bad, qu'il aurait peut-être mérité.
Cette saison, oui, il l'aurait mérité.
Et puis c'est John Voight qui a gagné pour son rôle dans Ray Donovan,
que je n'ai pas vu.
Donc voilà, donc pas forcément les mêmes choses qu'en drama. Et pour les comédies, alors c'est là où ça devient intéressant. On s'était habitué à voir gagner.
Jim Parsons.
Enfin, ça, c'est plutôt aux Emmy Awards qui
gagnent. Ouais, c'est vrai.
En l'occurrence, l'année passée, c'était Don Cheadle qui avait gagné pour House of Lies.
Et il le méritait.
Il le méritait, effectivement.
Think
mais
of something safe, like.
Mais il y avait Alec Baldwin en face quand même pour Tati Rock.
Think of something safe, like Holly Hunter or Don Cheadle. Voilà, pardon, c'était une citation de Community pour ceux qui ne sont pas à jour.
Voilà, tu spoil donc en fait.
Je spoil une réplique sans donner le contexte. C'est pas grave.
Donc du coup, nominé pour... Ce que je m'attendais, c'est à voir Girls gagner, en fait. Parce qu'elle avait gagné l'année passée. Et là, on avait Modern Family, Parks and Recreation, Girls, The Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine. Donc je m'attendais à voir, en tout cas pas, Parks and Rec et Brooklyn Nine-Nine gagner.
Ouais, et là, le gros twist, c'est que Brooklyn Nine-Nine a gagné deux récompenses quand même, non ?
Brooklyn Nine-Nine a gagné, pour cette nomination, gagné meilleure série, meilleure comédie.
Ouais.
Et puis, elle a gagné le meilleur acteur pour Andy Samberg.
Pour Andy Samberg.
Alors, Andy Samberg était le meilleur nominé de la catégorie, ça fait pas de doute. Jason Bateman était... Enfin, elle faisait comme d'habitude dans Arrested Development,
voilà,
mais
oui,
n'était pas aussi bon que ses autres castmates.
Ouais.
Don Cheadle avait déjà gagné l'année passée, puis je l'ai trouvé moins intéressant cette saison.
Ouais, cette saison, elle n'était pas intéressante.
Michael J. Fox, on l'a nommé parce que c'était Michael J. Fox, mais...
Oui, mais il avait rien à foutre là, quoi.
Sa série, c'est un
putain de naufrage, quoi.
Et puis Jim Parsons était nominé. Bon, alors c'est vrai qu'il est bon cette saison dans Big Bang Theory, mais il n'est pas à la hauteur de, par exemple... mais je ne dirais pas qu'il est à la hauteur d'Andy Samberg, en tout cas.
Non, pour moi non plus, parce que Jim Parsons, il joue exactement la même chose.
Andy Samberg arrive à être plus nuancé à être intéressant.
Samberg.
Mais c'est vrai qu'Andy Samberg n'est pas du tout le meilleur dans la distribution de
Brooklyn
Nine-Nine. Parce que Brooklyn Nine-Nine fonctionne extrêmement bien grâce à son cast.
Ouais,
c'est clairement un ensemble cast.
Quoi.
Et Andy Samberg, alors je prends la victoire d'Andy Samberg pour une victoire pour tout ce cast.
Voilà, c'est exactement ça.
Parce que c'est vrai qu'il y avait des séries, je pense qu'il y avait des. Je sais pas si Andy Samberg, honnêtement, je l'aurais mis au-dessus, par exemple, de Bradley Whitford dans Trophy Wife.
Voilà. Mais par contre, le truc que j'ai trouvé vraiment, vraiment plaisant, c'est que Brooklyn Nine-Nine. Moi en tout cas, je doutais de sa possible
victoire.
Non, pas victoire.
Renouvellement.
Renouvellement, voilà, je doutais.
Oh non, ça va, il se tient depuis quelques semaines, il se tient assez bien. Ça
ouais,
doit se tenir
mais
pour
tu vois, c'est facilement le genre de sitcom qui aurait pu, selon moi, être éliminé en saison 1.
En tout cas, en l'occurrence, ça marche très bien. Hein. Elle fait encore mieux que Parks and Rec à son début. Ça m'évoque beaucoup. Ça m'évoque à la fois Scrubs, Parks and Rec et Community.
Voilà, c'est ça, parce que, en même temps, il fait beaucoup penser à Scrubs, le rôle d'Andy Samberg.
Oui, effectivement. C'était ce que j'avais tweeté, d'ailleurs, quand j'avais vu la bande-annonce. Je me suis dit, ça serait un peu Scrubs au commissariat, en fait. Et ça évoque ça, effectivement. Mais il y a ce côté un peu plus zany qu'elle pouvait avoir, par exemple, 30 Rock ou bien...
ouais, tout à fait.
Tout en gardant le sérieux de l'intrigue policière. Est-ce que, maintenant, la grande question, c'est est-ce que c'était mieux que Parks and Rec cette saison ?
Oui.
Parks and Rec était meilleur la saison dernière.
Voilà, Parks and Rec cette saison, je suis désolée, mais
c'était pas à la hauteur.
Et Rob Lowe, par exemple, lui, je l'aurais nominé pour meilleur acteur dans un rôle. Parks and Rec.
Pour meilleur acteur dans un second rôle.
Voilà, parce que pour Parks and Rec, pour moi, il était vraiment bon.
Bon, mais là, c'est, on peut dire un peu la même chose
que pour Sheldon. Oui, oui, c'est clair que c'est
par
des
contre,
personnages.
Dans ce second rôle, j'aurais presque nommé Aziz Ansari parce qu'il est plus nuancé
cette
saison. Ah non. Toi, tu n'aimes pas Aziz Ansari.
Non, c'est pas que j'aime pas Aziz Ansari, c'est que je déteste les Indiens de base, donc. C'est une blague, je plaisante.
D'ailleurs, il y avait aussi d'ailleurs Tatiana Maslany cette saison dans Parks and Recreation.
Ah ouais.
Elle jouait la médecin avec qui
Tom. Ah putain, oui, bien sûr, c'est elle. Ah oui, d'accord, c'est pour
tu
ça qu'elle m'était
fan. C'est incroyable.
Ouais, non, c'est clair, ouais.
Mais justement, Parks and Rec était un peu inférieur cette saison et ça n'a pas été aidé par la diffusion un peu erratique. Alors que Brooklyn Nine-Nine était très très solide, avait un cast d'ensemble parfait, une écriture. Brooklyn Nine-Nine, c'est la seule saison, c'est une des rares séries à pouvoir me faire éclater de rire. Je sais que ça me fait éclater de rire à chaque épisode et ça marche, quoi.
Voilà.
Et pour la meilleure actrice, alors il y avait effectivement un Julia Louis-Dreyfus pour VIP. C'était pour moi la favorite parce qu'elle avait gagné l'Emmy et puis que VIP est excellent.
Oh, d'accord.
Et que je l'aurais probablement nommée au-dessus de Brooklyn Nine-Nine si elle avait été nominée. Il y avait Eddie Falco pour Nurse Jackie qui est toujours nominée, mais je sais pas. Merritt Weaver avait gagné l'année passée, non? Ou elle avait gagné l'Emmy, Merritt Weaver, cette année?
Écoute, j'ai absolument pas assez de mémoire pour te dire ça.
Merritt Weaver a gagné l'Emmy cette année, mais Eddie Falco, je crois pas qu'elle a gagné pour Nurse Jackie encore.
Ouais.
En tout cas, au Golden Globes, de ce que je me souviens. Lena Dunham a été nominée pour Girls, elle avait gagné l'année passée. Et puis, il y avait Zoé Deschanel pour New Girl, qui fait une performance que je trouve...
Correct,
mais enfin,
voilà,
c'est ça. Non, j'aime beaucoup New Girl, c'est une série qui est très
moi aussi, maintenant j'aime New Girl, mais le problème c'est que pour moi, c'est aucun des acteurs se démarque du lot.
Mais il y a un cast qui fonctionne très bien ensemble.
Voilà, c'est ça, c'est encore un de ces castes qui fonctionne très bien ensemble et qui est sympathique. Et du coup, je comprends qu'on puisse avoir envie de leur donner des récompenses, mais ils ne les méritent pas vraiment.
Par contre, du coup, la victoire d'Amy Poehler en fait est logique, mais pour moi, elle s'imposait pas comme ça parce que je pensais pas que Parks and Rec pouvait gagner en fait. Comme Brooklyn Nine-Nine,
pareil, ouais.
Une série trop petite.
Ouais, ouais.
Enfin, under the radar.
Je me suis fait exactement la même réflexion. J'ai été
et mais
très
en fait,
surprise.
Je pense que c'est un peu le fait que 30 Rock se soit terminé, ça laisse plus de place aux séries
voilà,
du même genre.
Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Donc voilà, pour moi, Amy Poehler le méritait tout à fait. En tout cas, parmi les nominés, je sais pas s'il y avait d'autres actrices. Qui le méritait plus qu'elle dans les comédies. J'ai rien qui me vient en tête comme ça à l'esprit, à part peut-être Julia Louis-Dreyfus, mais elle avait gagné l'Emmy et puis elle met moins d'elle-même que
Amy
Poehler.
Qu'est-ce
met.
Que dans les comédies. Non, effectivement, mais en même temps.
Il n'y a rien qui me frappe comme étant.
En même temps, à part maintenant qu'il n'y a plus Sortie Rock, il n'y a pas énormément de comédies qui sont vraiment centrées. Quoique, non, si, il y a Cougar Town, il y a Trophy Wife.
Trophy Wife. Non, j'aurais pas nommé Trophy Wife au-dessus.
Ah non,
de...
moi non plus, mais je voulais dire.
Avec des personnages féminins forts.
Des personnages féminins forts et marquants.
Il y a Mindy.
Mindy, surtout cette saison.
Mindy était très bien cette saison. C'est voilà. Vrai que si c'était pas Amy Poehler, j'aurais probablement bien aimé que ce soit Mindy.
Ouais, surtout que.
Mindy Kaling.
Surtout que ce qui avait commencé comme une sitcom un peu plan-plan, je vais utiliser ce mot-là. Ça a vraiment beaucoup évolué.
Fox a beaucoup de chance avec ses sitcoms cette saison.
Voilà, c'est clair. Ça
Fox, et puis surtout Mike Schur et puis les anciens de The Office
ouais.
Peuvent se frotter les mains. Le Lorne Michaels aussi avec tous les scénaristes.
Bah ouais,
et
c'est clair. Non, non.
C'est vraiment très très bien. Et Tina Fey arrive sur Fox l'année prochaine aussi pour un showrunning.
Ouais.
Je crois pas qu'elle joue, mais. À noter que, justement, un personnage masculin qui mériterait peut-être plus qu'Andy Samberg. Il y aurait peut-être Bradley Whitford dans
Trophy Wife.
Dans Trophy Wife. Il est un peu plus subtil qu'Andy Samberg quand même.
Et je trouve qu'il est plus effacé. Dans Trophy Wife, je trouve que c'est vraiment l'exemple d'une comédie menée par des femmes.
Oui, bah c'est le centre. C'est
au final,
malgré son mauvais titre,
ce que je trouve ça super ironique avec son titre, c'est que c'est Trophy Wife, le nom. Et en fait, au final, c'est plus Trophy Husband, quoi.
Oui, c'est lui le bon parti, puis
voilà,
elles sont un peu...
C'est exactement ça, c'est lui le trophy du truc.
Et puis, alors, pour Mindy Project, Chris Messina fait une très très belle performance.
Oui, oui.
Mais est-ce qu'il est un rôle...
Chris Messina,
c'est un rôle principal, c'est le gars qui joue Danny.
Voilà, ouais. Il joue un très bon personnage, mais pas il mérite pas de...
Tu penses pas qu'il mérite au-dessus d'Andy Samberg?
Non, je pense qu'Andy Samberg.
En fait, pour moi, celui qui allait être nominé, ce que j'aurais attendu, ce serait Robin Williams pour The Crazy Ones.
Ouais.
C'est ce que je m'attendais parce que c'est la
oui,
popularité
c'est
de
Robin Williams,
tout mais... ça. Mais au final, il n'est pas aussi bon qu'Andy Samberg, je trouve.
Voilà, donc clairement.
Même s'il
pas.
Il fait du Robin Williams.
Il fait du Robin Williams et c'est souvent.
Mais j'aime bien Crazy Ones, honnêtement.
Moi, pas tant que ça.
Je supporte bien. Je trouve que Sarah Michelle Gellar s'est bien adaptée au truc. Ces derniers épisodes,
il
en
s'appelle
tout cas.
Comment, le Chris Falk, c'est ça?
Gars, le beau gosse ou bien
le beau gosse.
Oui, oui, il est très bien aussi avec Robin Williams, une très belle alchimie.
Bah, pour moi, c'est lui le seul intérêt de la série, sincèrement.
Bon, Amanda Seton s'en sort mieux que dans Midi quand même. Elle a bien fait changer.
Oui, forcément, mais voilà.
Mais enfin, pour moi, c'est Crazy One sans être atteinte des sommets stratosphériques, c'est une série un peu dependable. Enfin, tu peux te reposer dessus pour avoir une passer un
ouais,
une bonne 20 minutes.
Je pense que j'arrêterai The Michael J. Fox Show avant d'arrêter The Crazy Ones.
Voilà. Quant aux autres shows de les shows de Chuck Lorre ou bien le ah tiens Anna Faris ou
non.
Ou...
Non, ah, pas Alison Janney, non, pas de nomination pour cette série, non.
Bon, après tout, The Blacklist a bien eu une nomination pour le meilleur acteur.
Oh putain, mais cette hallucination, The
Je
Blacklist.
Je me demandais d'où ça sortait, ça.
Mais The Blacklist, comment tu peux nominer The Blacklist?
Parce que c'est une des séries les plus populaires, ironiquement.
Ouais, non, mais même si tu fais abstraction du pitch de base,
non, mais
totalement
non. James Spader
débile.
Est génial dedans, il est rigolo.
Ouais, j'ai arrêté de regarder. Hein.
Moi, je continue à regarder juste pour James Spader, mais en fait, je vais pas spoiler, mais voilà, c'est un peu trop attendu, c'est trop.
C'est lui le père alors finalement
mais
ou pas?
Mais je crois en fait.
Voilà, parce que c'est
enfin,
le truc.
D'un côté, c'est presque inattendu parce que t'es tellement évident que ça allait
c'est
pas être lui.
C'est tellement évident, t'es là. S'ils font ça, c'est vraiment des scénaristes.
Je suis désolé si je
vous
spoil de Blacklist, hein, mais bon, en même temps, si vous faites.
En même temps, si vous regardez
non,
en fait, encore The Blacklist,
ils
vous faites quelque chose de
donné à Dermot Mulroney
vous.
Ou bien. Non, c'est Dylan
quoi
McDermott hein, qui joue dans Hostages.
Ah oui,
c'est
ah,
ça aurait dû être Dylan McDermott, on le sait tous.
Quoi?
Ça aurait dû être Dylan McDermott, on le sait tous.
Ah oui, lui, il aurait dû gagner.
Mais
il a une performance si nuancée dans je savais pas qu'on pouvait mettre autant de nuances différentes dans le fait d'être mauvais. c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il arrive à être mauvais de tout un tas de manières différentes et ça je trouve que ça pourrait presque se récompenser.
C'est de la belle performance en tout cas. On a fait à peu près le tour, je crois. Donc, la comédie. Donc, si vous n'aimez pas Brooklyn Nine-Nine, dommage. Si vous n'aimez pas les comédies de Mike Shore et Dan Gore, c'est encore plus dommage pour vous. Parce que, ben, c'était un beau succès et peut-être un. Qui sait, un passage vers Fox des Critical Darlings qu'on avait l'habitude de voir chez NBC.
Voilà, ouais, sûrement.
Il reste toujours Parks and Rec et Community sur NBC qui vont probablement se faire renouveler. Community.
Attends, Community, tu penses que ça va être renouvelé?
Community augmente son audience par rapport à son épisode
oui,
de départ.
Oui, je sais,
Community
mais.
Community a fait les meilleures audiences de NBC en termes de sitcom.
Sérieux?
À part Parks and Rec.
Ah putain! Ce serait tellement génial que Community soit renouvelé avec Dan Harmon. Alors que ces fils de pute ont osé le virer pendant une saison. Sérieusement, je pense que ce serait juste une. C'est le genre d'histoire, tu sais, de l'underdog qui sait pas, qui connaît pas trop sa place et qui tout à coup découvre que c'est un dieu au football américain et qui devient et qui à la fin, tu vois, il se fait porter sur les épaules de tous ses camarades, enfin de tous les mecs de son équipe. Et c'est là. Ça frise sur cette image où il est légèrement, où il est porté par tous, ça frise sur cette image et c'est là que ça fade to black et que ça marque executive producer Dick Wolf.
En tout cas, c'est déjà extraordinaire qu'il l'ait ramené, quoi. Rien que le fait que le réengager, voilà.
Non, oui.
Je serais pas déçu s'il n'y a pas de sixième saison, mais.
On en parlera mieux après.
On va faire une petite pause musicale.
Voilà, avec cette fois comme morceau. Bah, un morceau qui est tiré du prochain film dont on va vous parler, The Wolf of Wall Street. On vous laisse avec The Lemonheads.
Look around you, all you see are sympathetic guys. Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Coo-coo-coo-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Retour dans nos bodycars, après une petite pause musicale.
Un peu plus longue que prévu.
Puisque cet enfoiré de technicien du son a foiré.
Pas entièrement sa faute, Aïssa.
Hé, t'as vu, j'ai fait une rime, enfoiré, foiré.
C'est une rime tellement pauvre.
C'est une rime tellement riche.
C'est une rime tellement pauvre,
Il y a
Aïssa.
Tellement de sons en commun.
C'est une rime tellement pauvre que je n'ai pas de blague sur cette rime tellement pauvre. On est là donc pour vous parler, comme vous avez entendu, de The Wolf of Wall Street, le dernier Scorsese, qui a été un peu polémique. Qui risque fort de ne pas beaucoup être récompensé aux Oscars à cause de cette même polémique, parce que les votants aux Oscars...
Il y a eu quoi comme polémique ?
Ben, beaucoup de gens ont trouvé que c'était vraiment trop dépravé, que ça incitait à la débauche, etc., etc.
Ah oui, alors ça, c'est clair. Ce film, c'est facile, c'était quoi ? C'était des putes, du cul, des putes, du cul, de la coke, des putes, du cul, des qualutes, des putes, de la coke, de la coke, de la coke...
Et beaucoup de
fuck. Un bateau ! Jean Dujardin qui joue un banquier suisse avec un accent parisien... Et surtout, attends, et surtout un banquier suisse qui ne maîtrise pas parfaitement l'anglais. Mais dans quel monde ils vivent, bordel ?
À Genève, Aïcha, à Genève.
Je peux te dire que j'ai grandi entouré de banquiers suisses, littéralement. J'ai grandi entouré de banquiers suisses.
Non, mais tu vois, s'il a pas un minimum d'accent, les gens savent pas qu'il est suisse.
Non, mais non, là.
On pensait qu'il est américain qui vit à Genève.
Oui, non, mais là, avec son accent, on pense qu'il est français.
Bon, d'accord, mais pour un Américain, de toute façon, l'important...
Excuse me.
Pour un Américain, l'important, c'est qu'il pense pas qu'il est suédois.
This is a provocation. Do you want me to go home? Do you want me to go back to France?
Ça vient de quoi, ça?
Ça vient de Jacques Chirac.
Jacques Chirac?
Ouais.
Aïcha se souvient mieux d'un événement de la vie politique française.
Non,
moi,
c'est ça. Parce que pendant que j'étais en vacances avec des amis à Tignes, des amis de Paris à Tignes, ils n'arrêtaient pas de le sortir. Du coup, maintenant, je le connais. This is a provocation.
D'accord. Donc, elle ne peut pas me remettre dans le contexte, bien sûr.
Je crois qu'il était dans un pays à l'étranger et il voulait parler aux gens dans la rue, mais les gens l'empêchaient de parler dans la rue.
Ah, c'était quand il était en Israël.
Voilà, c'est ça. Israël. Voilà. Israël.
Enfin, dans les territoires
je savais plus si c'était Israël ou Afghanistan, en fait.
Afghanistan.
C'est un peu pareil, non ? Enfin, c'est à côté.
Pas tellement, non.
Mais c'est juste à côté.
Juste à côté. Il y a entre l'Israël et l'Afghanistan, il y a quand même l'Irak et l'Iran, hein, et la Jordanie. Très okay. Accessoirement.
D'accord, je sais pas pourquoi j'aurais placé l'Afghanistan à côté de l'Irak, parce que de Israël.
C'est en plein dans l'Asie, c'est les Pachtounes, c'est un peu loin. Hein.
Non, je crois que le mot que tu cherches, c'est les pages jaunes.
Pachtounes, Aïcha. Pachtounes.
Mec, je sais pas placer l'Espagne sur une carte, tu crois que je connais les Pachtounes?
Non, mais j'aime bien me moquer un peu de toi sur ces sujets.
Tu peux y aller.
Bah, tu me moques assez de moi dans le... pour mon absence de street smart, alors...
Et si tu savais de tous les trucs dont ta mère se moque à propos de toi quand on est au puits ensemble...
Bref, pour revenir donc à...
Cette émission est bourrée de fautes techniques.
C'est vraiment les Golden Gloves, on l'a dit.
Ouais. Et il y a même un moment où j'ai enlevé mes chaussures pour me réchauffer les pieds sur le chauffage.
En fait, t'es vraiment comme Emma Thompson, en fait.
Oh putain, j'aimerais tellement.
Donc, The Wolf of Wall Street, moi, j'ai beaucoup aimé. Contrairement à Aïcha, parce que j'ai trouvé ça...
Attends, c'est pas que j'ai... Non, vas-y,
le film
fais
en tant
ta critique, enfin, fais ta critique.
Déjà, l'aspect du film en lui-même, alors, un film, c'est quelque chose de complexe, hein, c'est composé. Il y a le scénario, il y a l'image, il y a le rapport scénario-image, il y a les performances des acteurs.
Il y a la musique, qui est le seul bon point de Wolf of Wall Street.
Alors, la musique est très bien, déjà, c'est un petit extrait de la bande-son, mais toute la bande-son est très
bien.
Oui,
mais tu sais, même dans notre émission, la bande-son est géniale, c'est pas pour autant qu'on fait une émission qui n'est pas à chier.
Il faut dire aussi que la direction, alors après l'image, toute l'image de Scorsese est toujours très bien. Là, c'est vraiment impeccable. Un montage
oui, d'union. D'accord, oui.
C'est un peu long sur la fin, mais c'est quand même.
Non, attends, c'est long sur la fin.
Disons les.
C'est
deux...
long sur le début,
pour moi,
c'est long sur le milieu.
Les deux premières heures sont passées très très bien. C'était un peu plus long sur la dernière heure, mais c'était plus la fatigue qu'autre chose. Le montage est très efficace, marche très bien. Entrecoupé avec les speeches de DiCaprio, ça marche très très bien. Les performances de DiCaprio et des autres sont bon pour Judd. J'imagine Scorsese qui rencontre Jonah Hill. Jonah, je sais que tu peux jouer le gars complètement défoncé, mais tu dois oublier tout ce que tu sais à propos de jouer défoncé. Tu dois jouer sur un tout autre level de défoncé.
C'est pas faux.
Alors, donc Jonah Hill a l'habitude
c'est
de jouer.
C'est ça que t'avais essayé de me susurrer pendant le film.
Cette blague, j'ai essayé de te la faire en tact, mais t'as rien compris. Donc
oui,
le...
c'est parce que moi, quand je regarde un film et je ne parle pas avec les gens.
Menteuse.
Non, attends, le seul bruit, le seul truc hors film que j'ai fait pendant ce film, c'est le moment où ils ont décrit les effets du Qualudes et où ça m'a rappelé la fois où avec Phil on s'était défoncé au Steel Nox.
Donc du coup, The Wolf of Wall Street, d'un point de vue technique, d'un point de vue cinématographique, c'est impeccable. Le scénario paraît peut-être un peu...
En fait, j'ai l'impression que tu sais, c'était genre un jeu... où ils avaient genre une centaine de cartes représentant la coke, une centaine de cartes représentant les putes, et une dizaine de cartes représentant des vrais éléments scénaristiques, et qu'ils ont mélangé le tout, et qu'ils ont tiré les cartes une à une, et qu'ils les ont posées, et une à une, ça a donné leur storyboard.
Moi, je trouve que ça allait. Le rythme et la progression du personnage de Jordan Belfort allait bien.
De qui?
De Jordan Belfort, le personnage principal de DiCaprio. Était très bien, on sentait la progression, la performance de DiCaprio était très très bien, il était vraiment à fond dans le rôle.
Et surtout, maintenant, DiCaprio on a compris pourquoi la future femme de Ted est la future femme de Ted. Parce que d'abord, elle s'est fait jeter par DiCaprio.
Oui, c'est vrai qu'on a, beaucoup de petits gars qui disent « Hey, c'est qui ça? Je me souviens de lui. » Et ben, en l'occurrence, on avait Christine Milioti qui jouait la première femme de Jordan Belfort. On avait John Favreau qui jouait son avocat.
Ah non, John Favreau, je l'ai direct reconnu parce qu'il jouait dans Friends aussi.
Bah, c'est,
et
c'est
il
gars,
jouait
c'est,
le
hey,
champion that's... de l'ultime combat. Il jouait Pete, un milliardaire qui voulait devenir champion de l'ultime combat. Et c'était génial.
Enfin, il y a beaucoup d'éclairs comme ça. Tu reconnais un acteur par-ci, par-là. J'ai trouvé ça assez amusant. Il y avait... Joanna Lumley qui jouait la tante de la deuxième femme de Jordan Belfort.
Elle joue dans quoi, elle ?
Joanna Lumley, c'est une actrice britannique assez connue.
D'accord, c'est pour ça que je la connais pas.
Oui, exactement. À noter que du coup, il y avait le docteur techniquement dans cette, parce qu'elle a joué le docteur dans un spoof en 1999 dans The Curse of Fatal Death. Donc, il y avait techniquement le docteur dans cette série, dans ce film.
Ah, oh, génial. Et pourtant, je n'ai même pas remarqué quand tu te masturbais.
Voilà, donc, assez pour les blagues d'Octo. Moi, j'ai trouvé ça drôle, mais surtout le...
Drôle, faut pas déconner.
Il y a des bons moments, c'est des moments marrants, ça te fait rire. Et le truc, c'est
Non, c'est pas drôle, c'était amusant.
T'as rigolé, Aïcha?
J'ai ri deux fois.
Disons.
Attends, la première fois où j'ai ri, c'était à cause d'une private joke.
Ouais, mais bon, t'as ri quand même aussi. Tu ris rarement, Aïcha, aussi.
Oui, je sais, je ris rarement.
Voilà, donc.
Je suis quelqu'un de très triste dans
drôle.
La vraie vie.
En fait, le truc, c'est que ça te fait rire, ça te fait sympathiser avec les personnages, malgré le fait qu'ils soient horribles. Et je pense que là, le fait de te faire interpeller par DiCaprio joue beaucoup là-dedans aussi. Il te prend à témoin, il te met avec lui.
Ouais, c'est.
Et après.
On a déjà vu ça dans House of Lies. Hein.
Ouais, mais House of Lies était une série, Aïcha.
Oui,
c'est pas
et House of Lies le faisait mieux que The Wolf of Wall Street.
Bref. Le truc, c'est que là, ça te fait sympathiser, ça, tout le truc. Tout le monde rit de bon cœur, les fêtes sont ridicules.
Et tout le monde ne rit pas de bon cœur. Moi, je ne riais pas.
La fête vire à l'orgie, la fête de vivre au sinistre, de lancer de nains, tout ça. Et tu entends la salle qui arrête progressivement de rire, et au final, il n'y a plus de rire du tout. Et tu vois un peu ce qu'a fait Scorsese qui marche très bien, c'est qu'il te fait te reconnaître, il te tend un miroir, et tu détestes ce que tu vois dedans. Ça se revoit dans la scène à la fin du film, alors c'est un peu spoiler, où ça se termine sur un plan sur une salle à qui Jordan Belfort fait une conférence. Et en fait, le dernier plan, c'est les visages de ces gens qui le regardent en espérant devenir riches. Ça marche très très bien parce que c'est un film sur un sujet. Alors, le film d'excès, le film à excès comme ça.
Oh mon dieu, les traders, c'est des connards! Scoop!
D'accord, mais je pense pas que ce. Je pense que justement, le film, s'il génère une telle discussion, c'est que, au final, on occulte ça.
Il a vraiment généré une discussion, ce film, sérieux?
Bah, t'as peut-être pas suivi, mais il y a quand même beaucoup de débats. Il y a des gens qui se sont dit c'est scandaleux, etc. Le personnage.
Est-ce que ces gens qui se sont dit c'est scandaleux, est-ce que les gens qui se sont dit que c'était scandaleux étaient genre cette espèce de petite vieille qui chain smoke et qui a traité Leonardo DiCaprio de bozo?
Une référence à John Mulaney un peu capillotracté, Aïcha.
J'en ai rien à foutre. Il nous la faut chaque émission. On a besoin d'une référence à John Mulaney.
On aurait pu la placer quand on parlait de Seth Meyers pendant les Golden Globes en même temps.
Pourquoi?
Blague avec Seth Meyers, John Mulaney, c'est plus facile, non?
Non, vu
que de faire venir dans une blague où il n'a rien à faire avec DiCaprio.
Non, son partner in crime, John Mulaney, c'était Bill Hader.
Il est apparu au Weekend Update, il y a des liens avec SNL plus facilement avec Seth Meyers qu'avec DiCaprio, on va dire.
T'es qu'un bozo.
Voilà, donc...
Billy bozo.
Je pense que ces gens qui sont scandalisés disent ouais mais ça nous encourage à faire ça, il est pas puni par le narratif. Bah non, parce qu'il a pas été puni plus que ça en vrai. Il a été quelques mois en prison, il s'est fait quitter un peu par sa femme et ses amis.
J'aime bien, il s'est fait quitter un peu par sa femme.
Non, pas un peu, enfin il s'est fait quitter par sa femme et ses amis. Alors là, c'est la seule conséquence de sa violence domestique, hein, le fait qu'il se fasse quitter par la femme, il n'a pas été poursuivi pour ça non plus. Et en fait, ça montre bien.
Comment ça, comment tu peux être poursuivi parce que tu quittes une femme?
Non, les violences, je parlais des violences domestiques.
Ah!
Quand il manque de kidnapper sa fille, il frappe sa femme, il aurait pu porter plainte.
En même temps, le film est tellement honteux du point de vue de l'image de la femme que ça renvoie que j'ai trouvé...
Ben justement, j'ai pas trouvé que c'était honteux du point de vue de l'image de la femme, mais plutôt de la façon dont Jordan Belfort perçoit les femmes. Et de la façon dont ces types de Wall Street perçoivent les femmes.
Si tu veux faire ce genre de...
D'accord, d'un côté, c'est pas...
T'avais peut-être pas besoin de... Il y a eu quoi, 5-6 scènes où il y avait des putes dans leur bureau.
Des
putes.
Bon, ça c'est aussi un reflet de la volonté d'être over the top. Tu regardes.
Ouais, il y a d'autres moyens. Sérieusement, putain, non mais sérieusement, au bout de la septième scène avec des putes, tu commences à en avoir marre, quoi.
Oui, alors après.
T'es là,
ça,
ok, j'ai compris. T'as du fric, donc tu l'utilises pour te payer des femmes. Génial, mec.
Mais ça participe justement de ce sentiment de malaise que t'as au final.
C'est absolument pas un sentiment de malaise que j'ai ressenti. Sérieusement, non, le film m'a amusé. C'était très très long, vraiment j'en ai eu marre, j'étais là putain, quand Philémon m'a dit qu'il était long, il avait pas tort quoi. Non, c'était vraiment long et moi j'ai
le film aurait pu être coupé genre une demi-heure plus tôt, ça c'est vrai, mais
écoute, déjà je pense que si tu supprimais pas toutes les scènes avec les putes, si tu supprimais un tiers des scènes avec les putes, le film durerait une heure de moins.
Ça fait que le film durerait qu'il y a des ça impliquerait qu'il y a une pute dans toutes les scènes vu qu'il durait 3 heures.
C'est à peu près ça.
Je serais pas assez extrême que ça dans la comptabilisation. Mais honnêtement, ça m'a pas spécialement frappé qu'il y avait beaucoup, ce qui est dommage d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de scènes avec des... Je pense pas qu'il y en avait autant que ça, mais il y avait effectivement énormément, et en plus avec les scènes avec sa femme et tout ça.
Et avec les potiches et tout ça, non, enfin... Moi, ça m'a agacé, enfin, personnellement, ça m'a agacé.
C'est vrai que ça, je pense, ça a participé à la fois du malaise...
Non,
fois,
c'était pas
trop.
Du malaise, c'était de l'agacement parce que il y a pas de réflexion pour moi.
Y avait
pour
la
moi, il y a pas de réflexion
produire...
derrière ça. Le mec est juste là, c'est trop cool, on a des putes,
C'est le problème de ce genre de truc, c'est que c'est une narration l'équivalent du film à la première personne. C'est l'adaptation de ce qu'a fait Jordan Belfort et c'est le piège. Il est un peu tombé dedans effectivement. C'est le principal problème du film, je dirais.
Pour moi, le principal problème du film, c'est Jean Dujardin qui joue un Suisse.
Pour Aïcha, c'est les... Aïcha dit les vérités telles
qu'elles. Never forget.
Honnêtement, à part si tu fais abstraction du mauvais, de l'accent qui n'a pas à sa place et du truc, c'était correct. La performance du banquier suisse agaçant, il l'avait bien, non?
Non, enfin non, mais j'ai
pense
pas.
Je pensais juste pas capable d'apprécier Jean Dujardin.
Voilà,
en fait,
je crois que c'est ça, voilà.
T'as cette espèce de haine imperceptible de ce qui est français et puis.
Ouais. Ça va être dur français. Le prochain X-Men.
Il y a Omar, oui, c'est vrai, Omar Sy, qui joue Bishop.
C'est Omar Sy ou Omar Sy?
J'ai toujours dit Omar Sy, mais parce qu'il est français, mais.
Sa mère, elle disait plutôt Omar, non.
C'est lamentable comme blague.
Tu noteras que c'est un revirement sur le thème de la mère.
Faut dire aussi que je disais, on dit surtout Omar et Fred en fait. On mentionne pas spécialement séparés d'habitude, donc.
Ouais.
Mais en tout cas, The Wolf of Wall Street mérite d'être vu, je dirais. Peut-être pas alors dans un cinéma, si vous, parce que sinon vous pouvez pas faire de pause et le regarder en plusieurs fois, ou bien.
Sincèrement.
Passer les bouts qui vous font vraiment chier, parce que c'est vrai qu'à un moment il y a beaucoup de moments de. Disons, il y a plus de stoner. C'est encore plus stoner. Ça fait encore plus stoner movie qu'un
film. Non, c'est pas stoner. C'est pas stoner. Les stoner movies, c'est avec la beuh. Faut pas déconner.
Un moment.
Quoi?
Il y avait pas de la beuh à un moment? Je sais qu'il fume du crack à un moment.
Non, il y avait pas de beuh, ça fait erreur.
Il y a pas de beuh?
Non. Il y avait pas de beuh, sinon Jonah Hill aurait été capable de bien jouer dans ce film.
Est-ce qu'il peut jouer très bien sans beuh s'il a de la coke ou bien des Quaaludes?
Non, il était pas incroyable. J'ai trouvé. Fin...
J'ai pas trouvé que c'était le film de du sexe, clairement.
Non, je parle aussi de Jonah Hill là.
Ah, Jonah Hill, non, il était pas.
Je trouve qu'aucun des acteurs était.
Mais disons, les acteurs vendaient bien leur personnage, j'ai trouvé. C'était. On se retrouvait Jordan Belfort, le banquier super arrogant, au-dessus de tout. Tu retrouvais l'agent du FBI un peu blasé, tu retrouvais.
Ça c'était ça, le seul bon élément du film, c'était Kyle Chandler. Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose! Ce serait beaucoup mieux si t'avais vu Friday Night Lights.
Non, mais je sais, je connais la référence, Aïcha.
Oui, mais tu fais chier de pas avoir vu cette série.
En tout cas, voilà, The Wolf of Wall Street, c'était le seul film de la saison vraiment qu'on a déjà vu, dont on vous en reparlera des autres films qui méritent peut-être un peu plus d'être mentionnés, je sais pas, on verra bien ce que ça donne aux Oscars.
Voilà, maintenant on va parler.
C'est certain qu'il gagnera probablement pas l'Oscar, en tout cas.
Maintenant, on va parler à quelque chose que personnellement j'attendais depuis. Ça doit faire quoi, un an et demi à peu près ? Community avec Dan Harmon. D'accord, donc Community, comme vous le savez tous, c'est, si vous nous avez déjà écouté ou si vous avez une connexion internet, Community, c'est une série qui se passe dans un community college. Il y a eu 3 saisons que personnellement j'ai beaucoup aimé, et la série était dirigée, enfin la série était créée par un mec qui était pas très stable, on va dire, qui déprimait beaucoup, qui buvait beaucoup, qui s'appelle Dan Harmon. Et ce mec a eu des problèmes avec la production et avec un membre du cast qu'on ne nommera pas, mais dont le nom de famille rime avec chaise. Et donc il s'est fait virer et ils ont engagé 2 nouveaux showrunners pour prendre la relève pour la saison 4. La saison 4 a été un désastre de bout en bout. Il n'y a eu que 2 épisodes à sauver, c'était le 8 et le 11. Et après ça, là, il y a eu la news à laquelle personne n'a cru. Enfin, moi, je refusais d'y croire parce que sinon, si ça s'était avéré faux, j'aurais vraiment été détruite. Dan Harmon a fait son retour sur la série pour la saison 5. Et donc là, on a eu les 3 premiers épisodes de la saison 5 qui étaient... Le premier était pas mal. Il posait les nouvelles bases. Le deuxième était grandiose. Et le troisième, je l'ai trouvé un peu à chier, mais bon.
Ah, le troisième était bien, j'ai trouvé. C'était parfait dans la parodie des films de Fincher et des procedurals à la mode en ce moment, très sombres.
Tout à fait, mais moi, tu sais que j'aime pas les épisodes concept. Enfin, moi, dans Community, je déteste les épisodes concept parce que je suis vraiment plus attachée au développement des personnages.
Mais il y avait du développement des personnages dans le même temps.
Ouais, mais...
C'est juste qu'il n'y avait pas Abed et donc...
Non, c'est juste que les personnages, quand ils font des épisodes concept, ils s'effacent un peu... pour plus rentrer dans le rôle qu'il aurait assigné dans le cadre du concept.
En l'occurrence, j'ai trouvé justement pas. Ça joue beaucoup sur Annie et Jeff.
Oui.
Ça joue beaucoup sur leurs obsessions, sur leurs personnages. Et donc, du coup, ils sont pas trop hors caractère. Et ça marche assez bien.
Écoute, je pense que cet épisode, sincèrement, je le réapprécierais une fois qu'on aura toute la saison 5 et que je me serais rendu compte qu'il n'y a pas que des épisodes concept. Du coup, je pense que j'arriverais mieux à apprécier. Mais là, ça fait un an et demi que j'attendais de retrouver mes personnages. Ça faisait un an et demi qu'il
me
manquait.
Trop possessive avec Community.
Oui, c'est ma série. Enfin, il y a pas à chier. S'il y a une série qui est moi, enfin non, il y a Shameless et Community, c'est mes séries à moi. Et là, Community me manquait énormément. Les personnages me manquaient. Abed me manquait, d'accord. J'avoue, Abed me manquait. C'est un fait. Et là,
en l'occurrence, son démontage du détective autiste était parfait.
Était parfait, surtout avec les petits winks sur le fait que Dan Harmon soit parti pendant une saison. Ça, c'était à mourir de rire.
Moi, j'ai trouvé sa moquerie du Dean qui essaie d'utiliser son autisme pour résoudre le crime. Quoi, c'était ça marchait très bien. Ça parlait très bien de cette tendance qu'ont certaines, qu'ont beaucoup de procédurales à s'en servir de l'autisme et des problèmes.
Ouais.
Sociaux.
Oui, écoute, c'est vraiment, je pense que c'est un épisode que je réapprécierais plus au revisionnage.
Il y avait des très performances très solides de la part de tout le cast aussi.
Oui, mais comme toujours, enfin, j'ai envie de dire, le cast est toujours. Et puis bon, enfin, mais moi, ce qu'il y a, c'est que le deuxième épisode était tellement spot on sur moi que. Enfin. Abed en Nicolas Cage, sérieusement, c'est comme s'il avait lu mon feed Twitter et qu'il s'était dit « Ah, je vais lui faire un petit clin d'œil à celle-ci ». Je précise pour les auditeurs que je sais que ce n'est pas ça qui s'est produit.
Tu fais bien de la préciser, Aïcha.
Oui, tu sais, avec mon ego monstrueux, on pourrait penser que j'y crois vraiment. Non, mais Abed en Nick Cage, c'était juste une performance incroyable. C'était merveilleux, quoi, vraiment. Et je crois que on se refait la série et je trouve que à chaque fois qu'Abed part dans des imitations, il est juste, enfin, que Danny Pudi part dans des imitations, il est juste incroyablement doué.
Il avait été nommé pour un Emmy il y a 2 ans, je crois. Non,
je crois pas.
Je suis quasiment sûr qu'elle avait été nominée pour quelque chose, en tout cas.
Non, c'était l'épisode au Timeline qui avait été nominé pour je sais plus quoi.
Si la saison se tient bien, il est possible que je m'attende à le voir nominé. Enfin, j'aimerais bien en tout cas le voir nominé pour quelque chose.
Moi
alors
aussi.
Pour la saison dernière, c'était peut-être pas la peine, mais pour cette saison.
Je vois pas ce que tu veux.
Il a pas été nominé une fois, tu crois ?
Non, je crois pas.
Il semblait qu'il avait été nominé pour un meilleur acteur dans un second rôle ou quelque chose, non ?
Je crois pas.
Peut-être pour un Golden Globe, mais je me souviens plus alors. Je vois peut-être des choses là où il ne faut pas les voir.
Ouais, peut-être. Peut-être que c'est juste du wishful thinking.
Peut-être, après tout.
Et toi, qu'est-ce que tu as à dire sur Community ?
Je suis très content du retour de Dan Harmon. C'est vrai que c'est à des années-lumière de ce que faisaient les derniers showrunners. C'était vraiment... Voilà, c'est brillant, à deux bouts en bout. Il n'y a pas de temps mort. Après, l'absence de Community, enfin de la Community réelle qu'on a eue, telle qu'on l'a eue avant, a peut-être... fait remonter d'autres comédies dans mon estime. Je ne m'a pas autant, par exemple, devant Community. Je ne trouve pas forcément Community aussi intelligent que pouvait l'être à tout moment 30 Rock.
Voilà, non, d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais...
Et puis, vu que le problème de Community, c'est que vu qu'il n'y a pas... Vu qu'elle se repose beaucoup, beaucoup sur ses personnages pour le côté émotionnel, tout ça, elle ne peut pas vraiment être aussi longtemps à 100% que, par exemple... 30 Rock, qui était excellente mais 90% du temps, alors que par opposition Community a peut-être plus de moments de temps mort, un peu plus de downtime que quand on a besoin, quand on avait besoin de 30 Rock, quand on a besoin de Brooklyn Nine-Nine ou Parks and Rec. C'est une comédie presque plus exigeante là où sont ses points forts, et du coup elle ne peut pas toujours se reposer sur ses acquis.
Je vois
et donc
que
quand elle a des points faibles, ça se remarque plus que par exemple 30 Rock.
Ouais, je suis tout à fait d'accord, oui.
Je suis beaucoup plus enclin à remarquer un épisode faible de Community qu'un épisode de 30 Rock. Et c'est pareil pour des séries comme Doctor Who, comme des séries comme beaucoup des séries que j'affectionne, il y a peut-être moins de régularité. Par exemple, Elementary pour les dramas est beaucoup plus régulière que d'autres qui
passent à saison 1. Sa saison 2, oui, je suis d'accord. Sa saison 2, je la trouve exemplaire, mais sa saison 1, je suis pas du tout d'accord.
L'un dans l'autre, en tout cas, je pense que Community a une tâche très, très, très dure et que cette saison s'en acquitte admirablement bien.
Je suis d'accord avec ça.
À noter l'absence de Pierce, on n'a pas dit grand-chose sur l'absence de Pierce.
Ah bah, surtout, j'ai trouvé la sortie de Pierce magnifique dans le premier épisode.
Classe de la part de Chevy Chase d'être venu juste voilà, pour c'était... ça, alors qu'il avait été interdit. Il a vraiment interdit. Été interdit
oui,
de
il a été interdit d'accès au plateau.
Par Sony.
J'ai trouvé ça touchant et un très bel adieu quoi, pour le personnage.
Chevy Chase est un relativement un connard, mais il faut dire qu'en fait, lui et Dan Harmon s'entendent pas si
ouais,
mal
ouais,
que ça.
Ouais, voilà,
en fait.
Je sais que l'un et l'autre se respectent. L'un et l'autre se respectent énormément parce que chacun... Ces deux hommes à personnalité très très forte.
Chevy Chase est un génie de la comédie, il faut pas l'oublier. Hein. Chevy Chase est quand même un génie de la
comédie.
Oui,
oui, c'est clair, clairement,
drôle,
oui.
Voilà.
Mais
après,
c'est
il a été souvent enfermé dans un mauvais rôle dans Community.
Ouais,
Pierce
n'était
pas toujours très bien manié.
Mais Pierce, je trouve que Pierce a des moments où il est vraiment touchant.
Du coup, l'expédition de Pierce en dehors et le fait qu'il ramène Jonathan Banks, je suis curieux de voir ce que ça va donner en fait. Jonathan
ouais.
Banks, issu de Breaking Bad,
ouais.
joue pour l'instant un rôle assez monocorde. On va voir ce que ça donne après.
Ouais.
Pas très subtil pour l'instant. À noter le retour aussi de... Bah maintenant qu'il est plus sur... Enfin, il est revenu après sa performance cet été dans le Daily Show. C'est John Oliver qui revient en tant que professeur Ian Duncan depuis le dernier
Tout
épisode.
Tout à fait.
Je crois qu'il est là dans pratiquement tous les épisodes jusqu'à la... Il a été recruté comme nouveau, comme il était en saison 1, quoi, série régulière.
Ouais.
Ça fait plaisir. Puis Chang a été très bien traité aussi. Le retour de Chang a été très bien traité aussi.
Alors Chang, ce que j'ai apprécié, c'est que pour le moment, on le met pas au premier plan. Tu sais, ils ont dans toutes les saisons de Community quasiment, à partir de la deuxième, ils ont essayé d'utiliser Chang comme un personnage au centre de la grosse intrigue, bad guy, tout ça.
Ouais. Et puis le fait de faire retomber en douceur toute l'intrigue du Changnesia et de Kevin qu'on avait l'année passée, quoi, s'en sort plutôt bien.
Voilà,
quoi.
Ouais. Je crois que ça va être tout pour aujourd'hui.
C'est à peu près tout, je pense, oui.
On veut dire deux mots, mais alors vraiment deux mots sur The Carrie Diaries.
Tu veux en mentionner deux mots? On pouvait en parler à un autre moment, mais...
Je vais juste dire en mentionner deux mots. C'est une série que tout le monde prend au ridicule parce que le pitch de base, à savoir que c'est un préquel à Sex and the City, c'est débile. Que la saison 1 n'était pas merveilleuse au début... Mais c'est une série qui s'améliore vraiment à chaque épisode. Je trouve qu'elle s'améliore un peu.
Un casting qui est très bien aussi.
Voilà, le casting est très bon.
Que ce soit au niveau, que ce soit Freema Hageman par exemple qui joue la patronne de Carrie, que
ouais.
j'adore dans cette série.
Ouais, tout à fait. Non, je trouve que.
Que ce soit.
C'est vraiment une série qui décolle énormément en saison 2, en fin de saison 1 et en début de saison 2. C'est du très bon et voilà.
À noter que la série a probablement été annulée en fait.
Quoi ?
Oui, c'était Anna Sophia Robb qui joue Carrie. La série n'a pas encore été renouvelée sur la CW et ça veut très certainement dire qu'elle a été annulée malheureusement.
Tu déconnes ?
Ouais, je suis désolé de te savoir comme ça.
Putain, en plus tu m'annonces ça à l'antenne là !
Ah, tu savais pas que ça a été.
Non, je savais pas !
C'était dans cet état. Des mauvaises audiences, je crois que Carrie Diaries est très très mal partie pour être renouvelée en tout cas.
Ah putain,
enfin, on sait pas, elle a été renouvelée.
C'est une des séries, sincèrement, c'est une des séries que j'attends le plus chaque semaine.
C'est un peu triste, mais.
c'est ta mère qui est triste d'avoir eu un fils pareil.
Non, mais plus sérieusement, c'est une très très bonne série. C'est dommage qu'effectivement il n'y ait pas autant d'audience que ça et qu'elle mette un peu de temps à taper juste par
ouais.
moment. Mais typiquement, le personnage de Samantha, pour lequel je craignais un peu au début de saison, parce que je pensais que ça allait vite être one-note et caricatural, et c'est pourtant assez rigolo et puis
ouais.
assez intelligemment utilisé. Et l'exploit de cette saison 2, c'est d'avoir réussi à rendre tous ces personnages appréciables. On avait Donna qui était juste chiante
voilà,
en saison 1,
ouais,
qu'on comprenait pourquoi
ouais.
tout le monde la testait. Bah là, du coup, elle devient plus profonde, plus intéressante à tout point de vue.
Voilà, et puis l'exploit de cette saison 2, selon moi, quand tu vois ce qu'ont été les premiers épisodes de la saison 1, c'est que la saison 2 commence à parler du sida. Parce que la grosse épidémie de sida,
bon,
forcément,
ça,
dans ces milieux-là.
Ça allait être clair qu'elle allait en parler. Hein.
Ah, moi, pour moi, j'étais sincèrement pas certaine.
Ben, enfin, je veux dire, ça
enfin, j'espérais
pour à Manhattan dans les années 80.
Sincèrement, oui, pour
ça
moi, c'était.
C'est douteux qu'ils en parlent
oui,
pas.
Oui,
quand
pour
même.
Moi, c'était le truc dont ils allaient être obligés de parler. Mais quand tu voyais le ton des premiers épisodes, tu disais que jamais la série arriverait à atteindre un moment où ça s'inscrirait naturellement dans son ton. De parler de l'épidémie du sida.
Bon, en l'occurrence, ça a été traité d'une façon très, très... on va pas trop spoiler, mais ça a été traité d'une façon un peu expéditive, j'ai trouvé, quand même. Et puis l'issue du truc... T'as vu l'épisode de samedi ?
Ouais, ouais.
L'issue du truc était un petit peu expéditive. Même si elle était crédible et qu'elle marchait, j'ai trouvé ça presque un peu expéditif. Mais on verra ce que ça donne, en tout cas, sur la
Je
fin de la
Je pense qu'ils vont continuer à développer ça, quand même, un peu.
J'espère, en tout cas.
J'espère. Bon, bah voilà, c'est tout pour ce soir.
On vous passe une petite musique avant de venir vous dire au revoir.
Voilà, on va vous passer Build Me Up Buttercup.
Retour. On s'excuse pour ce petit blanc. On vous dit au revoir donc.
On vous dit au revoir et comme d'habitude, de gros gros bisous, des câlins pour vous et pour votre famille aussi, surtout votre maman.
Voilà, regardez Community et Brooklyn Nine-Nine.
Et The Carrie Diaries.
Et regardez toutes les séries qu'on vous conseille en général.
Voilà. Toutes les séries qu'on vous conseille, sauf Doctor Who pour Antoine. Regardez pas Doctor Who.
Voilà, ne regardez
et
pas...
Et regardez pas non plus Sherlock, regardez pas ce genre de merde anglaise que tout le monde suce parce que c'est anglais et que les Américains, c'est des méchants et blablabla.
Ne regardez pas ces séries que Aïcha suce parce qu'elles sont américaines. En fait, ça marche pas, merde. Donc,
bisous à la semaine prochaine.
Dans deux semaines,
ou peut-être
parce que
trois.
Aïcha a des examens.
Oui, peut-être trois en fait, ou quatre, on verra. On se retrouvera.
Selon à quel point.
Ah, et surtout, bonne année à tous.
Un peu tard, non là.
On n'a pas fait d'émission depuis la nouvelle année. Enfin,
il y a un moment où si tu croises plus les gens, genre si tu croises quelqu'un que t'as pas vu depuis des mois et que tu le croises
bon,
le 31 janvier, tu vas pas lui souhaiter bonne année.
C'est valable jusqu'au 15 janvier.
On est le combien aujourd'hui ?
On est le 13.
Ouais, bon.
Donc on avait encore deux jours, donc tu vas te bouger le cul pour monter
alors,
cette émission
année.
De merde avec
et...
toutes ces putains d'erreurs de fil.
Non, parce que moi j'ai aussi des
examens, Aïcha. Ah oui, t'as un examen, t'as un truc à rendre dans deux jours.
Oui, dans deux jours, donc ça va pas
ouais,
être.
Ouais, mais tu peux demander une extension.
Non, pas avec ce genre de prof, non.
D'accord. Bon, donc vous aurez jamais cette émission et elle finira
perdue
sur une des clés USB d'Antoine.
Allez.
Au revoir.
À toutes.
Bisous. Just like we were meant to
be.